Vous écoutez, on lit pour vous.
Pourquoi dire « vous, voyez-vous » Un texte de Olivier de Zutter, paru le 14 janvier 2026 dans la presse. L'auteur est professeur à la Faculté d'éducation de l'Université de Sherbrooke et titulaire de la chaire de recherche sur la littératie scolaire. Désormais, tous les élèves du Québec doivent recourir au vouvoiement pour s'adresser au personnel enseignant ainsi qu'aux autres personnes adultes intervenant dans les écoles. L'introduction de cette nouvelle règle de vie scolaire constitue une belle occasion d'offrir une leçon de langue à tous les élèves. Cette leçon permettrait de faire des apprentissages sur le fonctionnement de la langue française et son histoire, ainsi que sur le lien entre la langue, la société et les pratiques culturelles. Un premier élément à faire remarquer concerne le fait que la langue et ses usages, au même titre que les pratiques culturelles auxquelles se rattache le vouvoiement, ne sont pas figées dans le temps, mais évoluent au gré des transformations de la société et de certains choix politiques. En voici deux exemples. Jusque dans les années 1970, il était considéré comme naturel, au Québec, que les enfants vouvoient leurs grands-parents et leurs parents, ce dont témoignent, par exemple, les œuvres de Michel Tremblay. Cette pratique très répandue, même dans les milieux populaires, a eu tendance à disparaître avec l'évolution des dynamiques intrafamiliales et elle est perçue aujourd'hui comme la marque d'une époque révolue. Plus près de nous, le nouveau pronom non-binaire « iel » a fait sa place dans certaines signatures de courriel, ainsi que dans plusieurs œuvres de littérature contemporaine, et il a été introduit dans quelques dictionnaires. Toutefois, une modification récente de la politique linguistique de l'État québécois interdit désormais son utilisation dans les communications officielles. Un deuxième élément à relever a trait au fait que toutes les langues ne fonctionnent pas de la même manière. Les exercices de comparaison entre les langues, qui peuvent se faire même avec des élèves très jeunes, permettent de poser un autre regard sur les langues en tant que système et de chercher à comprendre leur fonctionnement plutôt que d'assimiler uniquement des règles. Se pourrait-il que le vouvoiement n'existe pas dans toutes les langues et que certaines d'entre elles n'aient quasiment pas recours au pronom? Le troisième élément à soumettre à la réflexion des élèves porte sur les différentes manières dont la langue permet, au-delà du vouvoiement et de la formule d'adresse « madame » ou « monsieur », de manifester le respect envers une personne. C'est l'occasion d'aborder la question plus large des registres de langue, celle du choix des mots pour exprimer certaines émotions. Sur un autre plan, on pourrait attirer l'attention sur les différentes intonations utilisées à l'oral qui donnent parfois un autre sens au message et peuvent dénoter de l'ironie ou du sarcasme. Le « vous » et le « nous ». Pour prolonger l'exercice, intéressons-nous à l'autre usage du pronom « vous » dans la langue française, référant alors au pluriel, à un groupe de personnes plutôt qu'à une personne singulière à qui nous souhaitons manifester notre respect. Une partie des discours qui abondent sur les réseaux sociaux constitue un corpus intéressant pour faire repérer par les élèves que certaines utilisations du « vous », comme du « elle » au pluriel ou du « eux », souvent en opposition au « nous », servent à marquer la distance, la différence et à renforcer l'exclusion. J'ai appris, grâce à Naomi Fontaine, qu'en langue inou, il existe deux manières de dire « nous ». À côté du « nous » exclusif, qui ne renvoie qu'à ceux qui s'expriment, existe le « nous » inclusif, qui inclut les personnes à qui on s'adresse. Ce « nous », ajoute-t-elle, invite au partage, à la communion. Voilà un exemple qui illustre bien que les langues et les usages que nous en faisons témoignent de notre vision du monde, ainsi que de notre rapport à celui-ci et aux autres, ce qui devrait aussi être appris à l'école. Les directions d'école ont annoncé aux parents que des présentations sont prévues pour expliquer la nouvelle règle du vouvoiement aux élèves, répondre à leurs questions et les aider à s'adapter. En plus de ces séances, la classe de français apparaît comme le lieu idéal pour offrir une leçon de langue originale qui permettra de faire réfléchir à la manière dont la langue française et ses usages nous permettent de vivre ensemble. C'était « Pourquoi dire « vous, voyez-vous » ?» un texte de Olivier de Zutter, paru le 14 janvier 2026 dans la presse.
Pour acheter du café de façon éco-responsable, suivez ce guide. Un texte d'Annabelle Caillou, paru le 19 janvier 2026 dans Le Devoir. Derrière chaque tasse de café se cache une réalité bien plus amère que son arôme. Dans son livre « La jungle du café », le journaliste français Pierre-Wolf Mandrou dévoile une filière mondialisée où les multinationales dominent et où les petits producteurs peinent à vivre de leur travail. Malgré une consommation en constante hausse, l'avenir même du café pourrait être compromis. Loin d'être impuissants, les consommateurs peuvent faire changer les choses. Voici quelques conseils de l'auteur pour vous aider à bien choisir votre café. Misez sur la transparence. C'est simple. Plus un café est traçable, mieux c'est. Le consommateur devrait au minimum connaître son pays d'origine. Les meilleurs torréfacteurs vont même indiquer sur leur paquet ou leur site Internet la région, l'altitude, le nom de la coopérative ou de la ferme, parfois même l'espèce et la variété du café. Recherchez le bon label. Plusieurs labels font la promesse d'un café durable et équitable. Leur logo, apposé sur les paquets, sert surtout à rassurer le consommateur pressé. Après enquête, Pierre-Wolf Mandrou est catégorique. Le seul logo fiable, c'est Fair Trade, commerce équitable. Les autres, Rainforest Alliance, 4C utilisé pour Nestlé, Café de Starbucks ou AAA de Nespresso, ne servent à rien. Ces labels reposent sur les normes facultatives, rarement contrôlées et sans impact réel sur les revenus des petits producteurs. Pire encore, plusieurs ferment les yeux sur des cas de travail forcé, parfois d'enfants, ou de déforestation. Fuir les bas prix. Si le prix est très bas, n'espérez pas de miracle, ce ne sera pas bon, laisse tomber l'auteur. Les cafés bon marché sont généralement des rebuts d'entrepôt, des grains attaqués par des maladies ou mangés par les insectes, explique-t-il. En bref, du café issu généralement de pratiques sociales et environnementales dégradées. Les pratiques d'antan ne sont plus durables et le café est plus difficile à cultiver aujourd'hui. C'est normal que ça coûte plus cher qu'avant, ajoute-t-il. Évitez les capsules. En plus d'être un désastre écologique, parce qu'on recycle peu, voire pas, l'aluminium, la capsule est une arnaque marketing, selon l'auteur, puisque le café qu'elle renferme est vendu 2 à 3 fois plus cher le kilo. Les petits producteurs ne touchent quasi rien de cet argent, qui revient surtout dans les poches des grandes multinationales qui les commercialisent. Et d'après les dégustateurs avec qui l'auteur s'est entretenu, le café en capsule est loin d'offrir l'artifice en bouche d'un expresso ou d'un café-filtre bien préparé avec des grains d'exception, pourtant moins chers au kilo. Privilégiez les indépendants plutôt que les multinationales. mieux vaut encourager des torréfacteurs indépendants, transparents et engagés, plutôt que des multinationales comme Starbucks ou Nestlé. Côté en bourse, elles ont des exigences de rentabilité et n'ont que peu de préoccupations pour l'amélioration des conditions de vie des producteurs ou à la préservation de la planète, soutient le journaliste. C'était, pour acheter du café de façon éco-responsable, suivez ce guide, un texte d'Annabelle Cailloux, paru le 19 janvier 2026 dans Le Devoir.
Enseigner la désinformation à l'ère de la post-vérité. Un texte d'Eliott Lévy, publié le 12 janvier 2026 dans La Liberté. Discussion avec Elena Forzani, directrice du programme d'éducation à la littératie et professeure à l'Université de Boston, dont les recherches contribuent à diriger l'enseignement de la littératie numérique. Depuis les années 2010, le paysage de l'information a subi des transformations qui rendent l'information fiable de moins en moins accessible. Les milliers de voix qui s'expriment sur tous les sujets ont semé bruit et confusion en ligne, marquant le début de ce que beaucoup appellent l'ère de la post-vérité. Comment les experts en éducation élaborent-ils des programmes scolaires pour faire face à cette nouvelle réalité? C'est la question que se pose Elena Forzani, directrice du programme d'éducation à la littératie et professeure à l'Université de Boston, et ses collègues. Ses recherches portent sur les méthodes d'enseignement de la littératie numérique au primaire et au secondaire. Même avant d'avoir des outils d'IA générative, l'évaluation de la crédibilité en ligne n'était pas très bien enseignée, dit-elle. L'IA a ajouté une toute autre dimension à une situation qui était déjà très difficile, et je ne pense pas que les écoles aient encore rattrapé leur retard dans ce domaine. L'ère de la nuance. Elle explique qu'historiquement, dans les écoles d'Amérique du Nord, la fiabilité de l'information était enseignée en fonction de la crédibilité des sources qui fournissaient les faits. L'accent était largement mis sur les scientifiques et les chercheurs, considérés comme détenteurs d'informations exactes. Mais aujourd'hui, même ces experts peuvent falsifier leur rôle, partager des informations qu'ils ont été payés pour diffuser ou déformer les faits afin de faire appel aux émotions de leur public. Certaines des anciennes méthodes heuristiques que nous utilisions pour enseigner ne sont plus aussi efficaces aujourd'hui. Ces anciens outils sont moins pertinents à l'ère de la post-vérité, souligne-t-elle. La pression exercée par l'ère post-vérité sur le domaine de l'éducation a révélé de nombreuses failles dans les approches utilisées, que les experts en littératie sont présentement en train de revoir. Ils soulignent par exemple que la recherche et la pédagogie traitent les textes et les auteurs de manière plutôt absolutiste. Par exemple, nous dirons que cet article a été écrit par le New York Times, il est donc manifestement crédible. Ou bien celui-ci provient de Fox News, il n'est donc certainement pas crédible. Et cela peut être très problématique, car ce n'est pas une bonne méthode heuristique. Les institutions de l'information ne constituent donc plus à elles seules des critères appropriés pour déterminer ce qui est factuel ou véridique. Et il ne s'agit pas seulement de la crédibilité de la source, mais aussi des biais inhérents au domaine de recherche. Par exemple, un article médical étudiant l'asthme peut être considéré comme une source crédible, mais il reste susceptible de biais si les chercheurs n'ont étudié aucun sujet racialisé. À mesure que de nouvelles informations apparaissent, nos conclusions changent. C'est ainsi que fonctionne la science. Il est très important d'apprendre aux élèves à traiter les informations de manière plus nuancée. Enseigner les nuances implique également d'enseigner la conscience de soi. Nous abordons souvent l'information avec nos propres croyances et identités préconçues, explique professeur Forzani. Nous pouvons enseigner aux étudiants des compétences et des stratégies pour évaluer la crédibilité, mais ils risquent de ne pas les utiliser car ils ont tendance à se rabattre sur leurs croyances antérieures. Les chercheurs en éducation s'intéressent donc maintenant à la question de la prise en compte des croyances préalables des apprenants. Demander aux élèves d'évaluer qui ils sont par rapport aux informations qu'ils recherchent devient une question essentielle pour évaluer l'utilité de ces informations. Elle évoque la création d'activités d'auto-évaluation qui permettent aux élèves de se reconnaître dans ce qu'ils apprennent et leur donnent la possibilité de modifier leurs convictions en s'appuyant sur plusieurs sources de preuves. On demande potentiellement à un étudiant de renoncer à son identité ou de prendre ses distances avec les croyances de sa famille,
ce qui est beaucoup demandé. C'est effrayant sur le plan émotionnel, souligne-t-elle. Mais si nous voulons contribuer à renverser la tendance dans la guerre de l'information, c'est le genre de travail auquel nous devons associer les étudiants afin qu'ils apprennent vraiment à penser par eux-mêmes et à faire preuve d'esprit critique. Et bien sûr, ce travail devrait également s'accompagner de l'enseignement de croyances plus positives par rapport à la manière dont ils abordent les connaissances. Le savoir ne peut être enseigné comme un monolithe immuable, il doit être considéré comme quelque chose de flexible, en constante évolution. Dans notre paysage en ligne de plus en plus polarisé, ceux qui changent d'avis en se basant sur de nouvelles preuves ou d'opinions contraires peuvent être vivement critiqués. S'il existe des preuves solides, changer d'avis devrait être salué. Et les recherches ont montré qu'il est important que les élèves aient la possibilité de réfléchir ensemble aux preuves, car cela leur donne l'occasion d'entendre les différents points de vue de camarades de classe qu'ils respectent. La vérification des faits comme nager à contre-courant. Les experts remarquent que les élèves comprennent généralement bien qu'ils doivent remettre en question les informations trouvées en ligne et sont généralement bien conscients de la prévalence des fausses informations et de la désinformation. Mais il y a un grand écart entre le fait de savoir qu'il ne faut pas croire tout ce que l'on lit sur l'Internet et la pratique. La réaction automatique que nous observons est qu'ils ont tendance à y croire immédiatement sans se poser de questions. Et les élèves ne sont pas les seuls à être coupables de cet écart, les adultes le sont aussi. Elena Forzani explique ce phénomène en partie par le fait que la vérification des faits semble, à bien des égards, contraire à notre expérience en ligne. La qualité d'information à vérifier est tellement énorme qu'elle provoque rapidement fatigue et épuisement chez les internautes. Sur le plan psychologique, notre cerveau est également programmé pour confirmer nos croyances antérieures plutôt que de remettre en question notre point de vue. Les algorithmes sont non seulement très efficaces pour nous montrer des contenus qui correspondent à nos opinions, mais ils sont également spécialement conçus pour empêcher la création de signaux d'arrêt, qui permettent à notre cerveau de faire une pause et de décider si nous souhaitons prendre un moment pour réfléchir plus profondément. Si l'on souhaite partager quelque chose, cela se fait également très rapidement. C'est ainsi que les plateformes sont conçues. La manière dont l'Internet est construit influence réellement notre pratique. Le contenu généré par l'IA est l'ère de la post-vérité. Et en plus de cela, bien sûr, l'intelligence artificielle ne se soucie pas vraiment non plus de savoir qui est la source. La diffusion de contenu généré par l'IA complique encore davantage les choses. Les textes générés ont envahi le web. Certains rapports indiquent que plus de 50% des articles publiés en ligne sont désormais générés par l'IA. Mais avec autant d'informations agrégées par les outils d'IA et les générateurs de contenu, un risque élevé d'hallucination et peu de sources disponibles, il devient de plus en plus difficile de confirmer l'exactitude des informations trouvées en ligne. Une hallucination d'IA se produit lorsque l'intelligence artificielle produit une information fausse, inventée ou inexacte, tout en la présentant comme si elle était vraie. Nous devons enseigner aux élèves comment les textes générés par l'IA sont créés. Quel a été le processus de création de ce résumé généré par l'IA de Google? Comment fonctionnent ces algorithmes? Les experts s'interrogent aussi sur l'adéquation des outils d'IA pour vérifier les faits ou détecter les contenus générés par l'IA. Bien qu'ils puissent être utiles, leur utilisation ne peut toujours pas remplacer l'enseignement de la pensée critique et des compétences numériques. Je pense que cela enlèverait trop de pouvoir au lecteur et à l'étudiant, explique Elena Forzani. Seul l'étudiant sait qui il est, quelles sont ses convictions et quelle est sa mission. Nous devons apprendre aux étudiants à se demander « Cet outil fait-il ce que je veux qu'il fasse pour moi dans ce contexte ?» Interdire les outils d'IA dans les salles de classe n'est pas non plus la bonne solution. Les élèves les utiliseront. Que leur utilisation soit prescrite ou non par les enseignants, car leur réalité les amène à se tourner vers le monde en ligne dans la plupart des aspects de leur vie. Maintenir l'esprit critique en dehors de la salle de classe. En fin de compte, les compétences en matière de détection des fausses informations et de la désinformation s'acquièrent dans un environnement qui encourage la curiosité. Elena Forzani recommande que, même à la maison, les élèves soient encouragés à étudier ou à s'informer sur des sujets qui les intéressent afin de maintenir actif leur esprit critique et de renforcer leur confiance en leur propre sens critique. C'est quelque chose que les parents peuvent faire avec leur enfant. Ouvrir la porte à la discussion sur des informations qui visent à montrer aux enfants qu'il est normal d'être confus, puis d'avoir des conversations. Cela peut être particulièrement utile lorsque les enfants apprennent à naviguer parmi les particularités et les normes sociales de chaque plateforme qui font que les fausses informations peuvent prendre différentes formes. En s'entraînant à traiter les informations sous toutes leurs formes, ils seront plus en mesure de combler l'écart entre la consommation passive de contenu et son évaluation active, et ce, autant dans les contextes de divertissement que dans ceux où une évaluation critique leur est clairement demandée. C'était « Enseigner la désinformation à l'ère de la post-vérité », un texte d'Eliette Lévy, publié le 12 janvier 2026 dans La Liberté.
L'État doit défendre la culture. Un texte signé Hélène David, publié dans la série Enquête de solutions du journal La Presse, édition du 5 mars 2026. Les Jeux olympiques viennent de se terminer. Pendant 2 semaines, nous avons respiré l'air de la fierté canadienne, mais surtout québécoise. On s'est enorgueilli des médailles obtenues et on s'est attristé des déceptions de ceux qui sont repartis sans le succès espéré. Dès le rideau des Jeux descendus, on s'est posé la question : comment le Canada, pays nordique connu pour ses montagnes enneigées, pouvait-il se retrouver au 11e rang du tableau des médailles olympiques ? Le pire résultat depuis 2002. La réponse unanime, former un athlète, c'est long, c'est coûteux et la carrière doit débuter tôt pour espérer briller parmi les grands. Le sport et les exploits olympiques, c'est de la diplomatie douce, au même titre que les succès internationaux de nos artistes. Le parallèle saute aux yeux. Il faut développer les talents et soutenir financièrement nos créateurs et ce, tôt. Dans leur apprentissage. Je pense aux écoles d'art, de musique, de chant, de danse, aux jeunes des régions qui étudient dans nos conservatoires, qui chantent dans nos chorales, qui apprennent le violon, le chant, le piano. Le Québec a contribué par le soutien à ses institutions culturelles à l'émergence de formidables musiciens et chanteurs, ainsi que de danseurs, de sculpteurs, de comédiens, de metteurs en scène, d'écrivains. Quand j'étais ministre de la Culture, en 2014, j'ai vécu les menaces de fermeture des pôles régionaux du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec. Ce fut ma première bataille. La démonstration du besoin de soutien financier devait être très convaincante. J'ai dû rapidement apprendre à monter au front pour préserver nos institutions culturelles. J'ai rencontré des jeunes qui découvraient leur passion pour le chant, le piano ou le violon, des professeurs qui formaient de futurs grands comédiens ou musiciens. Tout cela m'avait donné le souffle nécessaire pour revenir à Québec et plaider avec rigueur et vigueur. J'ai aussi constaté l'importance de la vie culturelle en région, la vitalité des salles de spectacle et de tous les artistes qui viennent s'y produire. Nos institutions québécoises, du secondaire à l'université, en passant par les cégeps et les écoles d'art, ont formé des générations d'artistes qui rayonnent partout dans le monde. Les gouvernements qui se sont succédés depuis la Révolution tranquille ont toujours été sensibles à l'importance de développer et protéger notre culture, même si la volonté politique a pu être à géométrie variable. Les missions culturelles que j'ai eu le privilège de piloter en Europe et aux États-Unis n'ont fait que renforcer ma conviction que le Québec n'a pas les moyens de lésiner en matière de formation et de rayonnement. La compétition est féroce, mais nous avons de très belles réalisations dont nous pouvons être fiers. Que ce soit Xavier Dolan, qui concourait en 2016 pour la Palme d'Or au Festival de Cannes, ou Yannick Nézet-Séguin, nommé en 2015 l'artiste de l'année par le prestigieux magazine Musical America, ou récemment Charlotte Cardin, qui a déclaré lors de sa nomination comme artiste féminine de l'année aux Victoires de la musique, citation « Vraiment pour une Québécoise récemment installée à Paris, je ne pouvais pas rêver un meilleur accueil de la part des Français. Fin de citation. Tous ces artistes sont de formidables ambassadeurs de notre culture et de nos talents, sans compter la nomination récente de Théodore Pellerin, qui s'est vu décerner la statuette du meilleur espoir masculin pour son rôle dans le film Nino à la cérémonie des Césars en France. Mais un constat s'impose. Sans financement adéquat de toute la chaîne de formation, sans le soutien aux écoles primaires et secondaires pour les sorties culturelles, pour la formation et les bourses de perfectionnement, sans les efforts énormes qui doivent être déployés pour maintenir la découvrabilité culturelle de nos créations, nous risquons de mettre en péril les efforts des dernières décennies. Est-ce que l'avenir de notre culture passe par un meilleur financement? Par plus d'argent pour les institutions et les organisations culturelles, et même peut-être par un salaire minimum garanti? La réponse est oui. Le temps du 1% du budget du Québec consacré à la culture est révolu. Les montants ont augmenté depuis quelques années, mais la culture est toujours vulnérable quand vient le temps de faire des compressions dans les dépenses. Les dangers s'installent sournoisement, sans compter l'accès de plus en plus facile aux productions anglophones. Les sous-titres nous font vite oublier la langue d'origine et tout se dilue dans un creuset à la culture indéchiffrable. En ce sens, le succès du ministre de la Culture, Mathieu Lacombe, pour aller chercher un consensus sur le besoin de modifier la Convention de l'UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles en lui donnant plus de pouvoir face aux dangers du numérique, doit être salué. L'État ne doit jamais capituler en matière de culture, quelle que soit l'orientation politique du parti au pouvoir. Être élu au Québec vient avec une responsabilité incontournable, celle de protéger l'essence de sa spécificité. Notre culture, c'est notre âme. Elle nous précède et nous survit. Elle est le témoin et le passeur de notre histoire. Et surtout, elle nous unit. Fin de cette chronique d'Hélène David, une collaboration spéciale, titrée « L'État doit défendre la culture », publiée dans la série « Enquête de solutions » du journal La Presse. Ce texte a été publié dans l'édition du 5 mars 2026 de ce journal.